Laurie Canton, bonjour.
Bonjour.
Lors de la campagne électorale de 2016, Donald Trump avait déclaré « Le rêve américain est mort. Si je gagne, je vais le faire revenir ». Son slogan, on le sait, était allé droit au cœur d'une partie de l'électorat américain. Alors, il y a quelques jours, on a de nouveau entendu parler du rêve américain, mais côté démocrate, quand Joe Biden a nommé comme vice-présidente Kamala Harris, fille de deux étudiants qui se sont rencontrés sur le campus de Berkeley, en Californie. Sa mère est née en Inde, son père en Jamaïque. On reviendra avec vous sur cette notion de rêve américain, mais le destin de Kamala Harris est-il de nature à illustrer ce rêve américain?
Ah, totalement. Kamala Harris est vraiment, par son parcours, l'illustration, l'incarnation du rêve américain, comme vous l'avez rappelé, hein. Ses parents qui sont tous les deux des immigrés, qui sont venus aux États-Unis pour vivre mieux, pour réaliser leur plein potentiel par l'éducation, ça c'est vraiment le rêve américain à 100%. Et elle qui est fille d'immigrés, alors son père est prof à Stanford, hein, c'est pas les immigrés qui partent de rien, hein, et qui arrivent par l'éducation et par une certaine ambition, hein, à devenir candidate à la vice-présidence, ben c'est un parcours qui illustre que tout est possible pour qui s'en donne les moyens.
Qu'est-ce que recouvre exactement ce terme de rêve américain? Comment vous le définiriez?
Il y a deux composantes, hein, essentiellement. Une première composante, il y a le rêve et l'américain. Le rêve, c'est pas forcément quelque chose qui est fondé ou qui va se réaliser. C'est le gros problème actuellement, c'est que ça se réalise plus, dixit les démocrates et dixit Trump en 2016. Donc il y a l'espoir d'une vie meilleure. Cette vie meilleure, c'est à la fois matériel et immatériel. Ça n'est pas que une grosse voiture et une belle maison, hein. Cette année, en 2020, on célèbre les 400 ans de l'arrivée du Mayflower et de ses pères pèlerins, et en fait les fondations du XVIIe siècle soulignent cette double dimension. La Virginie est fondée dans une optique essentiellement économique, c'est-à-dire des gens qui soit veulent améliorer leurs conditions, soit veulent fuir la pauvreté, et pour les puritains en Nouvelle-Angleterre, c'est vivre sa foi librement, donc c'est un accomplissement qui est immatériel de soi. Donc c'est la liberté religieuse, mais par extension c'est aussi la liberté politique. Par extension encore aujourd'hui, c'est une forme de liberté personnelle, intime, sexuelle, le fait d'être qui on veut sans entrave. Et les entraves, c'est typique chez Benjamin Franklin par exemple, de l'ancien monde, un monde où il y a des carcans, où il y a des castes, et l'Amérique c'est justement pas ça. C'est
un donc monde en opposition à l'Europe justement à l'époque.
Exactement. C'est un rêve américain, c'est un rêve en Amérique, aux États-Unis. Donc c'est un peu comme en vin, il y a l'idée de terroir. Le terroir américain importe et il est propice à justement la possibilité de la réalisation de ce rêve. Donc ça nourrit un exceptionnalisme américain qui dit que ce qui est possible aux États-Unis ne l'est pas ailleurs.
Et ce qu'on voit, c'est que dans le rêve américain, il y a aussi une quête, dès la fondation du pays, de l'homogénéité de la société américaine.
Alors, on a coutume de dire que l'Amérique se construit sur et par l'immigration. C'est vrai, mais c'est aussi une construction qui se fait contre l'immigration. Et c'est pas seulement une question raciale. L'antipapisme, l'anticatholicisme, qui remonte au XVIIe siècle dans les guerres de religion et qui continue jusqu'au XIXe siècle, voire contre Kennedy en 1960, c'est absolument pas raciste. L'opposition à l'immigration irlandaise, elle n'est pas raciste, mais il y a toujours un désir d'homogénéité, c'est-à-dire qu'on doit rester entre soi.
Donc l'Irlandais pauvre et catholique, à un certain moment de l'histoire des États-Unis, était considéré comme non assimilable.
Ah, il était considéré comme non assimilable, comme fondamentalement différent et comme dangereux car subversif. On pensait toujours qu'il y avait une forme de théorie du complot avant la lettre, avec le pape qui tirait les ficelles, qui envoyait des Irlandais pauvres pour qu'ils votent démocrates déjà à l'époque. Et donc les adversaires des démocrates, qui n'étaient pas encore les républicains, faisaient tout pour limiter cette subversion des autres qui ferait que l'Amérique ne serait plus protestante comme elle devait l'être.
Et aujourd'hui, qui se sent concerné par le rêve américain?
Alors, beaucoup d'études montrent que les Hispaniques, en fait, croient beaucoup plus dans le rêve américain que les Américains blancs eux-mêmes. C'est-à-dire que les Américains blancs sont plus pessimistes quant à la possibilité de réalisation du rêve américain, parce qu'ils ont décliné économiquement, en partie, et donc ils ont des choses à regretter, alors que les Noirs et les Hispaniques, eux, sont plus dans une logique ascendante. Ils sont beaucoup plus optimistes qu'ils l'étaient il y a 20 ans quant à la réalisation du rêve américain. Évidemment, les statistiques dont je parle datent essentiellement autour de 2015-2016. Avec Donald Trump, c'est sûr qu'il y a une forme de pessimisme nouveau, mais qui est essentiellement dû à la personnalité de Trump. Si Biden est élu et qu'on refait une étude dans 2 ans, on va se rendre compte que l'optimisme est revenu. Donc il y a quelque chose de très conjoncturel dans cette lecture optimiste-pessimiste. Mais effectivement, les Hispaniques peuvent correspondre tout à fait au modèle hardworking de Benjamin Franklin. Le temps, c'est de l'argent, on travaille dur, on épargne et on va finir par y arriver, soi ou ses enfants.
Chez certains républicains, il y a aussi l'impression que l'évolution de la population américaine vers plus de diversité pourrait finalement assurer une mainmise des démocrates sur la politique américaine. Qu'en pensez-vous? L'évolution démographique joue-t-elle véritablement en faveur des démocrates?
Alors oui et non. En théorie, oui. Ce qu'on remarque, étude après étude, il y a une constance assez formidable là-dessus, c'est que les non-blancs, entre guillemets, dans leur diversité, votent largement démocrate. Mais le bémol, c'est quand ils votent. Les Noirs votent beaucoup, en proportion ils votent autant que les Blancs, pourtant ils ont des conditions économiques qui sont assez largement différentes. En revanche, les Hispaniques votent beaucoup moins, c'est ce qu'on appelle un géant endormi. Les jeunes votent beaucoup moins. C'était moins vrai en 2018, et 2018 a été l'année d'une très forte mobilisation. Et
Donc
les
aux
Asiatiques
élections
qui
de
sont,
mi-mandat.
de mi-mandat, et les Asiatiques qui sont la minorité qui croît le plus vite actuellement, votent aussi assez peu. Pourtant, ils sont bien plus riches en moyenne, même s'il y a une forte variabilité, que les Hispaniques. Et pourtant, ils votent à peu près dans les mêmes proportions. Donc, en théorie, oui, c'est une chance pour les démocrates, mais en pratique, on le voit, on a un président républicain. En 2016, on a eu un Sénat républicain et une Chambre républicaine. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel, mais qui réside dans la mobilisation, que Trump est une formidable machine à mobiliser pour les démocrates, paradoxalement, et que le piège pourrait se refermer si Trump n'est pas réélu en 2020, puisque les démocrates vont devoir ensuite mobiliser sur autre chose que l'anti-trumpisme. Et ça va être un grand défi pour les démocrates dans les années à venir, notamment s'ils gagnent en 2020 pour les élections de mi-mandat en 2022, qui traditionnellement, sont catastrophiques.
Alors, sur le rêve américain, il y a aussi un volet international avec le rôle des États-Unis sur la scène internationale qui alimente chez certains l'impression que le pays est en déclin. C'est aussi important.
Les deux sont liés, l'interne et l'externe. L'interne, c'est le fait que la mobilité sociale, les inégalités, etc., font que les promesses ne pourraient plus être tenues. Et il y a toujours aussi, lié à ça, l'idée que l'Amérique ne fait plus rêver à l'extérieur. Trump avait beaucoup dénoncé l'Amérique d'Obama qui s'excuse à l'international et qui s'agenouille littéralement face aux adversaires. Et donc, il voulait rendre sa grandeur à l'Amérique en interne, mais également en externe, qu'elle soit respectée. Il voulait flatter l'estime de soi de ses électeurs. Et à l'inverse, les démocrates maintenant trouvent que, par exemple, la gestion de la pandémie de coronavirus a montré que les États-Unis ne sont plus à la pointe de la recherche, ne font plus rêver et donc sont un petit peu à la ramasse, si vous me permettez l'expression, des autres pays.
Alors, à propos du rêve américain, vous consacrez un très long chapitre aux banlieues résidentielles parce que, selon vous, c'est un territoire qui symbolise encore le rêve américain.
Alors, pour moi, c'est le laboratoire du rêve américain. Pour un certain nombre de raisons, bonnes et mauvaises, hein. Il y a beaucoup d'observateurs actuellement qui critiquent les banlieues comme étant construites sur le racisme, puisque elles se sont développées notamment par des clauses qui empêchaient les Noirs d'y habiter, et puis parce que économiquement, les Noirs étaient un peu coincés dans les centres-villes. Donc il y a cet aspect de quête de l'homogénéité au moment de la déségrégation. Hein. Il y a eu des déségrégations dans les villes, donc dans les écoles, et puis il y a une forte migration des Noirs du sud vers le nord. Et donc il y a eu un mouvement de repli des Blancs en dehors des centres-villes, ce qui explique pourquoi les Noirs étaient concentrés dans les villes, et les villes sont devenues des villes noires et des banlieues blanches. bouche. Donc on a cette image du donut. Mais les banlieues, ça a toujours été, on fuit la ville parce que qui la pollution, qui les épidémies, le bruit, etc. Et donc il y a une forme de repli pour la quiétude, la santé, etc. Donc il y a une vision qui est édénique, on va chercher une forme de pureté, de meilleures écoles, être entre soi. C'est moins vrai maintenant puisqu'il y a de plus en plus de minorités dans les banlieues. On n'est plus du tout dans les banlieues intégralement blanches des années 50 et 60, hein, voire où les blancs sont en minorité. Donc on n'est plus du tout dans ce schéma-là, mais on a toujours cette idée de se préserver et de chercher ce qui est mieux pour les enfants. Le rêve américain, c'est aussi c'est mieux pour soi et mieux pour ses enfants.
Vous expliquez aussi dans votre livre que justement ce territoire, ces banlieues, ont joué un rôle majeur dans les élections notamment de 2000 et de 2004. Et ce sont particulièrement des territoires précis dans les banlieues, les ex-urbs. Vous pouvez nous expliquer ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent ?
Alors, dans les années 90 et 2000, avant la crise des subprimes, il y a eu une très forte expansion des banlieues et des banlieues au-delà des banlieues. Les villes américaines se construisent par cercles concentriques. Et donc les exurbs, c'est le cercle qui est au-delà des suburbs. C'est-à-dire qu'on a les centres-villes, on a un premier cercle de banlieues anciennes qui date en gros de la première moitié du XXe siècle. On a un deuxième cercle qui date du baby-boom, en gros les banlieues iconiques américaines. Et ensuite, à partir des années 80-90, on a eu un cercle un peu plus loin, généralement construit sur des terres rurales, qu'on appelle les exurbs, et qui sont l'espèce de nouvelles frontières suburbaines, périurbaines américaines.
Et c'est un territoire qui a été particulièrement visé par les Républicains.
Alors, les Républicains, en 2004 notamment, ont particulièrement bien visé ça et les petites villes qui sont en dehors des grandes métropoles, ce qu'on appelle les micropoles, alors que les démocrates, pas du tout. Les démocrates avaient axé leur campagne sur les grandes villes et leur clientèle habituelle, ce qui est assez classique. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que la majorité de la population américaine vit dans ce qu'on appelle dans les sondages les banlieues. Et donc, les deux parties, maintenant, font campagne pour conquérir cette population de banlieue qui est souvent plus diplômée. Et ce que l'on remarque dans pas mal d'endroits, c'est que les démocrates ont fait d'énormes progrès, et notamment chez les blancs diplômés. C'est moins vrai chez les blancs pas diplômés du supérieur, dans ce qu'on appelle les white working class, chez qui Trump a fait de bons scores, et des scores assez décisifs en 2016. Toute la question est de savoir s'il va renouveler cet exploit d'une certaine manière en 2020 ou pas.
Merci Laurie Kenton.
Merci à vous.